Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
De retour dans les grandes gueules du sport, il est 10h05, c'est votre rendez-vous les grandes gueules le samedi et le dimanche, vous le savez, de 9h à midi, et si vous avez raté la première heure, pas de problème, il y a les podcasts des grandes gueules disponibles dès maintenant pour écouter l'avis de nos GG sur Zinedine Zidane, notamment pour écouter le zapping aussi des GG où il était beaucoup question de patinage artistique, tiens, avec David Douillet et Christophe Cessieux qui sont là, bon. Denis Charvet et Stephen Brun, et oui on rend hommage aux Français qui gagnent. Dans 30 minutes, un homme en colère va débarquer, Pierre Amiche n'aime pas du tout l'idée du combat qui devrait opposer Francis Ngannou, la star du MMA, et Tyson Fury, le champion de boxe. On verra ça. Et puis à 11h, le bras de fer des GG avec les sportifs russes qui pourraient être de retour aux Jeux Olympiques 2024. Le CIO, en tout cas, ouvre la porte à un retour des bannis depuis le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Une ouverture qui ne plaît pas à tout le monde. Est-ce que vous êtes plutôt team choqué ou team pas choqué? En tout cas, les grandes gueules vont devoir choisir leur camp. Et puis, alors, depuis cette semaine, enfin, depuis la semaine dernière plutôt, une nouveauté que les GG adorent ou certaines détestent, au choix, le guet-apens. C'est le débat mystère. Les GG ne sont au courant de rien, c'est promis. Et pourtant, elles vont devoir débattre sans préparation. Après, c'est un débat. Vous êtes au courant de rien, on est d'accord.
C'est un débat sur Bernard caché, je pense que Denis a besoin de préparation.
Denis va se cacher sous la table.
On en parle dans quelques instants d'ailleurs de tout ce qui se passe à la Fédération Française de Rugby. Mais d'abord, direction le rugby, le tennis. Melbourne, Eric Salio, on en est de la finale dame.
22 minutes de jeu, 4 jeux à 2 pour Rybakina, la kazakhstanaise, qui joue vraiment très très bien. Zabalenka est au service, elle a une balle pour revenir à 3 jeux à 4. Et j'ai un œil sur les stats, c'est impressionnant. Hein. 5 aces de chaque côté, et puis surtout la vitesse de service, ça sert plus fort que certains garçons, hein, on va pas hésiter à le dire, puisque Zabalenka est à 180 km/h de moyenne en première balle, rendez-vous compte. Ouais, ça aussi fort que les garçons.
Tu renverrais ça, toi, Steve? Oui. Est-ce que tu renverrais des départs?
180, ça va.
Ouais.
Dis-moi, Eric, il y avait la place pour Caro, non? Il y a des regrets, non? Il y avait la place pour Caro Garcia, non?
Dis-le, Eric.
Merci pour ta réponse.
Je pense qu'elle aurait pu être à la place de Zabalenka, mais je pense que Rybakina, sur le niveau qu'elle affiche, c'est très dur à aller chercher quand même. Hein.
Ouais.
Mais bon, c'est vrai qu'on aurait aimé qu'elle soit à la place de Zabalenka. On n'a rien contre la Bélarusse, mais bon, voilà. Heureusement, Magdalinette est passée par là.
Merci Eric, on a parlé de tennis, on va revenir donc au rugby avec bien sûr cette semaine agitée au sommet du rugby français. On va en parler, on parlera du sportif dans un instant, mais on va accueillir Wilfried Templier. Salut Wilfried.
Bonjour messieurs dames.
Bonjour Wilfried.
Quelle semaine pour le rugby français.
Le dernier.
Avec la démission de Bernard Laporte de son poste de président de Fédération française de rugby, suivi ensuite par la démission du comité directeur de la Fédé, en tout cas de certains représentants, les représentants de la Ligue nationale de rugby et de 9 opposants à Bernard Laporte. Hein, pas tout le comité directeur, c'est bien ça.
Non,
le problème. Ça. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant pour la direction du rugby français, alors qu'on le rappelle, on est à moins de 8 mois de la Coupe du Monde en France?
Bah, plus grand chose de cataclysmique, puisque la journée d'hier a tout rassemblé, hein, en matière de rebondissement. Après, on le rappelle que le nom des clubs amateurs l'est emporté concernant, bah, une nomination de Patrick Buisson en tant que président délégué. Bah, il faut raconter cette journée pour comprendre l'avenir, en fait. Il y a eu d'entrée la démission de Bernard Laporte, décision saluée par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, qui en visite à Marcoussis. Elle appelait tout de même de ses voeux à une démission du comité directeur et de nouvelles élections possibles en 6 semaines. Mais la ministre n'a pas les prérogatives pour imposer cela. Et dans la foulée, on apprenait que les membres du comité directeur, l'équipe de Bernard Laporte en somme, choisissait de rester en place. Comment l'apprenait-on? En fait, parce que l'opposition sortait furibarde de Marcoussis en expliquant qu'elle venait de démissionner, cette opposition, et en dénonçant un passage à un hold-up. Résultat, pas d'élection anticipée, un président par intérim nommé jusqu'au mois de juin. C'est la date de la prochaine Assemblée Générale. Et lors de cet AG, ce sera à Lille, un nouveau président à élire, mais comprenez bien, seulement un président, pas de nouveau comité directeur. Et où on trouvera-t-on, où trouvera-t-on ce président? Eh bien, au sein de la liste du comité directeur actuel, où il n'y a plus d'opposants. Florian Grill ne voulait pas être potentiellement élu, mais gouverner une fédération avec ce comité directeur-là, où sachez au passage, tu l'as dit, qu'il n'y a plus de représentants de la Ligue, puisque René Bouscatel et Didier Lacroix ont démissionné, parce que les clubs professionnels réclamaient aussi de nouvelles élections. Donc, pour résumer, on attend le nom du président par intérim d'ici quelques jours, et en juin, le nom de celui qui ira tout simplement au bout du mandat, fin 2024, les élus en place se justifiant hier en expliquant qu'ils étaient hors des affaires pour lesquelles Bernard Laporte avait été condamné en première instance, et que leur bilan leur permettait cette décision.
Alors Wilfried, tu restes avec nous bien sûr, mais d'abord messieurs, cette question, est-ce qu'il faut faire table rase, repartir sur des bases saines, comme le réclame la ministre des Sports, comme le réclament les représentants aussi des clubs amateurs? Christophe, est-ce qu'en gros il faut des élections là dans 6 semaines, enfin en tout cas préparer des élections très rapidement?
Je pense que ça aurait été la meilleure solution, maintenant que Bernard Laporte a démissionné, pour faire table rase du passé, pour que chacun se retrouve avec ses arguments, avec ses projets pour la Fédération Française de Rugby. Là, on est dans un entre-deux, finalement. C'est-à-dire que Laporte a démissionné, mais son comité directeur est toujours en place. Son comité directeur, et notamment l'un d'entre eux, Patrick Buisson, qui a été désavoué quand même par les clubs, et finalement, on va en mettre un autre qui n'a même pas été demandé. Enfin, on n'a même pas demandé son l'approbation au reste du rugby français. Donc là, on est un peu dans un entre-deux. Je comprends évidemment cette bonne guerre que les membres du comité directeur, ceux qui se sont fait élire sur la liste de Laporte, aient envie de rester en place. Mais je pense que pour le bon ordre du rugby français, il aurait fallu procéder à des élections. Bon, ouais. Maintenant on est à 8 mois de la Coupe du Monde.
7 mois.
On se rappelle que la campagne avait été très longue, hein, Wilfried, lors des précédentes élections.
J'estimais 6 semaines pour mettre en place des élections.
Ça avait duré plus de temps que ça.
Il faut quand même une personne.
Oui, mais là ils estimaient qu'en 6 semaines on pourrait faire les élections.
Après on peut les comprendre, ces gens-là qui restent accrochés à leur poste et qui pour leur ligne de défense disent nous on n'est pas lié à Bernard Laporte, on n'est pas responsable de ce qu'a fait Bernard Laporte. Mais je pense que un coup de balai aurait pu faire du bien, sachant que si ce comité directeur avait démissionné, ils auraient pu ensuite mettre en place une stratégie pour pousser un candidat de leur clan à la nouvelle élection. Pour une nouvelle élection, ils auraient pu mettre un candidat chez eux en avant pour
projet contre projet.
Exactement. Et ça c'était un peu plus fair, tu vois. Là maintenant ils sont là, ils sont en place. Je suis pas sûr qu'Amélie Oudéa Castéra soit vraiment satisfaite qu'il y ait encore des pions de Bernard dans le truc. Mais bon, après, c'est le jeu. Les mecs, ils sont en place, ils lâchent pas. Hein, le beefsteak est bon.
Elle a raison de pas être satisfaite. Et tu as tout dit, Stephen. Ils s'accrochent à leur poste. Et c'est ça, le drame. Et pas que du rugby, hein. C'est le drame du sport français en général. Sans jeter l'opprobre à qui que ce soit. Et puis, je nomme personne, mais il y a un paquet de gens qui trouvent une reconnaissance personnelle, une reconnaissance même sociale, en ayant ce type de poste, fonction, hein. De poste. Et c'est dramatique, parce que ce sont pas forcément ceux-là les meilleurs et les plus enclins à faire avancer le sport, parce que c'est leur petite carrière qui prévaut plutôt qu'autre chose. La vraie démocratie aurait été que tout le monde démissionne. Et puis je trouve que c'est pas très fair. Ils ont été élus avec une tête de proue qui s'appelait Bernard Laporte. Aujourd'hui il a des problèmes. Ça aurait été c'est pas très sympa, quoi. Je veux dire, ils ont fait partie de son équipe et là tout le monde se désolidarise. Oui, c'est pas nous, c'est pas nos affaires, c'est pas notre faute, etc., etc. Peut-être, d'accord, mais à un moment donné ils se sont tous côtoyés, ils ont fait des réunions pendant des heures ensemble, ils ont sans doute des liens d'amitié ou une
espèce. Ils se désolidarisent à mon avis de façade seulement, David, hein,
ouais, parce que d'accord, mais que... même c'est pas bien, quoi. Je veux dire, ouais. Si t'es honnête et si t'es droit dans tes bottes, tu c'est pas parce que tu vas démissionner que on va dire bah tiens, il faisait partie du truc. Non, pas du tout. Donc un peu de démocratie, un peu de conscience collective, et puis ça permettra au rugby de repartir sur quelque chose de de Claire Sauvage.
Surtout que c'est une année importante.
Avec des échéances comme ça.
On n'est pas parti pour ça, qui est
le plus important.
Non,
hein. C'est le sport qui est le plus
et
important.
Et on attend toujours de savoir qui, justement, va représenter le rugby français. C'est important, quand même, de connaître le nom, le visage.
Là ce
la
serait donc le trésorier, c'est ça, Wilfried, le trésorier
Martinez,
de la fédération.
Ouais. C'est le nom qui revient, on attend effectivement, d'ici quelques jours.
On suit ça, bien sûr, de très près avec toi, Wilfried, avec tout RMC sur rmcsport.fr. On suit, bien évidemment, toutes ces affaires autour de la fédération française de rugby. Ça va bouger dans les semaines à venir. Dans une semaine, le tournoi destination, quand même, il y a du sport avec les Français qui sont tenants du titre.
On va parler ballon,
qui reste sur une série de 13 victoires de suite, mais, en France, on est exigeant.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
On enchaîne une 13e victoire. Victoire des Bleus, 35 à 17.
On travaille beaucoup sur des règles de 3, c'est-à-dire toutes les 3 secondes, un tiers de l'équipe en jeu. Toutes les 3 secondes, le jeu change. C'est pas les chiffres qui nous dirigent, c'est nous qui dirigeons les chiffres.
La femme de Palace, il est passé à l'intérieur.
Prendre des rafales de contre-attaque dans la tronche, je te dis que ça fait mal.
Moi j'avertis, hein, on va aux ennuis.
Attention, la dépossession, à un moment donné, de ne pas être dépossédé de la victoire.
Attention quand même.
C'est pas ni fort ni mauvais, c'est mauvais du tout.
10h15 sur RMC, on parle de rugby maintenant sur le plan sportif avec cette année historique, on l'a dit, Wilfried, hein, tu es toujours avec nous, Wilfried Templier, mais oui. Une année historique qui n'empêche pas quand même des questions sur le style de jeu.
Bah oui, des questions surtout posées après la dernière tournée d'automne. Hein. 3 victoires pour les Bleus face à l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon. Mais bon, rappelez-vous, contre les Australiens, ça s'est joué un exploit de Penaud. Les Sud-Africains à 14 dès le début de match n'étaient pas loin de nous battre face à Marseille et face au Japon. Il y a quand même eu quelques sifflets au Stadium de Toulouse qui venaient du jeu au pied à outrance. En novembre d'ailleurs, c'était 50% en moyenne de jeu au pied en plus que toutes les autres équipes qui étaient engagées dans cette tournée pour l'équipe de France. Alors, Fabien Galthié a avoué que les Bleus avaient, je cite, fermé volontairement le jeu à ce moment-là, qu'ils allaient tenter de changer les choses, de jouer plus de ballons, mais vont-ils pour autant changer leur jeu à 7 mois de la Coupe du Monde ? Les précisions du responsable de l'attaque du 15 de France, Laurent Labitte.
On a fait le bilan de novembre, on savait pourquoi on avait demandé ça aux joueurs, pourquoi on avait mis ça. Mais ce qui nous intéresse avant tout déjà, c'est de gagner. Donc si effectivement il y a des matchs, eh bien, il faut limiter la voilure, limiter le jeu pour aller gagner un match, on continuera à le faire, c'est sûr. Mais après, il est évident que les joueurs, aujourd'hui, doivent s'adapter. L'ont senti aussi, l'ont vu. On a sensibilisé nos meneurs de jeu, on a montré, on a discuté, on a commencé à travailler. Voilà, c'est tout ça aussi qu'on doit, dans lequel on doit progresser pour savoir qu'est-ce que l'équipe adverse du coup nous propose. Puisque maintenant, on voit les équipes adverses changer aussi de stratégie, notamment défensive, par rapport à notre jeu et à ce qu'on leur propose. Notre objectif en attaque, c'est la recherche des espaces. On l'a dit depuis le début, et c'est toujours vrai.
Et oui, et celui-ci l'expliquait que face à une défense dense, si l'espace, comme il dit, est au fond du terrain, ils iront toujours le chercher avec le jeu au pied. C'est comme ça qu'ils se sont trompés face à l'Australie, qui d'habitude ne mettait pas trop de joueurs à cet endroit-là, au fond du terrain, sauf que là, ils en avaient mis 3, et les Bleus, ils sont restés sur le plan initial, et ils ont rendu les ballons. Donc, on nous a expliqué cette semaine qu'il n'y avait pas de dogme, pas d'interdit. Vont-ils mettre plus d'étincelles aux quatre coins du terrain? La possible titularisation de Ramos à l'arrière plutôt que Jaminet va-t-elle dans ce sens? Réponse lors de ce tournoi destination.
Merci, Wilfried, tu restes avec nous pour ce débat qui arrive avec cette question, les GG. Pour le 15 de France, la manière a-t-elle de l'importance ? Oui ou non ? Christophe Cessieux.
Non.
Denis Charles.
Seule la victoire est belle.
Donc non. Stephen Brun.
Non, pas pour le moment.
Non plus. David Douillet.
Non, pourvu que ça gagne.
Très bien, vous êtes tous sur la même ligne. On s'en fiche du beau jeu, nous on veut juste la victoire. C'est ça, c'est étonnant quand même.
C'est pas étonnant. De la part de Denis quand même, c'est un peu étonnant.
Les stats du rugby.
Ouais. Eh bien, on a tous été contents quand l'équipe de France était championne du monde en
98
sous au début au football au Stade de France.
D'accord.
L'équipe de France n'avait pas bien joué, elle était championne du monde, on a tout oublié du jeu de l'équipe de France. Il y a eu quand même une année de langue populaire extraordinaire.
Mais si tu reviens là-dessus, il y a eu des débats après 2018 aussi, et la victoire de Deschamps quand même.
Si t'es championne du monde en 2023 sans jouer le jeu que tu espères, ou le jeu d'envolé ou de French Flair, que voilà, ben tu t'oublieras tout.
C'est ça, d'accord.
Et on le voit aujourd'hui, on regarde le public aujourd'hui, elle a beaucoup de sympathie par rapport à cette équipe de France. Donc c'est vrai que parfois elle peut être exigeante les supporters, mais regarde, les audiences sont énormes, la sympathie est énorme, mais je crois que ça vient aussi de cet état d'esprit qu'a une équipe de France. Il y a un état d'esprit incroyable. Il y a vraiment une équipe de France qui, il faut se les reconnaître, qu'elle est courageuse, qu'elle est déterminée. Et c'est peut-être pour ça qu'on oublie un petit peu le jeu derrière. Voilà. Oui. Elle fait preuve quand même d'une force collective assez incroyable.
Tu voulais pas qu'il joue plus, toi,
Maintenant, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que notre ami, le grand scientifique Mathieu Lartaud de France Télévisions nous a critiqué en disant qu'on avait critiqué le jeu de l'équipe de France et de dépossession. Oh. Et maintenant, je suis content que, mais il aveu quand même du staff de Galtier et de la Bitte, mais nous fait dire qu'on avait pas vraiment tort. Donc, on sait aujourd'hui que c'était calculé.
C'est-à-dire que toi, tu critiques, mais tu dis que finalement le résultat est plus important.
C'est pas vrai. J'ai dit que ça peut avoir des limites.
C'est un peu contradictoire, tout ça.
Quand tu joues avec les babasses.
Écoute-moi. J'ai toujours dit que ça peut avoir à un moment donné des limites. La preuve, c'est que tu sors de deux matchs gagnés qui par miracle contre l'Australie et l'Afrique du Sud, qui m'ont fait dire qu'effectivement ce jeu de dépossession pouvait à un moment donné nous faire perdre. C'est tout. Jusqu'à aujourd'hui, il nous fait gagner. Donc, c'est difficile d'aller contre Fabien Galtier. En même temps, ils ont dû mener une réflexion pour se dire, mais il va falloir quand même jouer un davantage pour pouvoir poser des problèmes à l'adversaire et pas se retrouver en finale de Coupe du Monde, voire demi-finale de Coupe du Monde, en faisant que la dépossession, ne gagner pas.
François, la dépossession, c'est jeu au pied de.
D'accord. Pardon. Mais tu pourras développer, mais c'est parce qu'on va mettre court, parce qu'il y a une balle de 7 pour Rybakina, Eric Salio. La finale dames de l'Open d'Australie.
Allez, premier set en poche pour Elena Rybakina, la Kazakhstanaise, 6 jeux à 4. Ça n'a pas été si simple parce que tout à l'heure, je vous disais qu'elle avait un break d'avance. Ce break, elle l'a perdu. Mais Zabalenka a commis quelques petites bêtises, notamment une double faute horrible sur balle de break. Donc derrière, Rybakina a conclu assez facilement ce dixième jeu, donc un 7-0. 6-4. Elle est à une manche de remporter son deuxième grand chelem, mais croyez-moi, elle ne sourit toujours pas. Elle est très concentrée, Rybakina.
Merci beaucoup, Eric. Wilfried.
Oui, c'était juste pour expliquer aux gens qui sont pas forcément rugby, qui nous écoutent, la dépossession, on en parle, c'est vulgairement jeu au pied chez l'adversaire, on le prend en défense, on le récupère le ballon et on se nourrit des contre-attaques, voilà, pour battre l'adversaire vulgairement, on va dire.
La plupart des grandes nations mondiales jouent de cette manière, l'équipe de France n'a rien inventé là-dedans. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une équipe
dans l'histoire de France?
D'accord, oui, enfin, aujourd'hui, tu peux plus jouer comme à l'époque de Charvet, c'est plus possible. Le French Flair, la balle à l'aile, la vie est belle, c'est fini tout ça, les gars.
Il faut expliquer aussi pourquoi, parce que les défenses sont tellement aujourd'hui hermétiques que tu as du mal à trouver des espaces et tu t'exposes à des contres. Donc aujourd'hui, on prend moins de risques qu'avant, on s'expose moins qu'avant, parce qu'on se dit qu'en gagnant du terrain et d'aller chez l'adversaire, on va les contrer, on va marquer. Voilà, c'est pas plus subtil que ça.
David. Juste très rapide. Rapidement, mais on oublie toujours qu'une équipe de France, ça se prépare, et ces matchs-là ont été des matchs de préparation aussi, et que dans ces matchs de préparation, il faut essayer de nouvelles choses en permanence. Donc, on essaie de nouvelles choses qui sont pas forcément très jolies, mais qui fonctionnent, et d'autres qui peuvent l'être très jolies et qui fonctionnent pas. C'est des essais. Je pense que les entraîneurs font ce genre de choses avec des groupes d'hommes différents, avec des combinaisons différentes, etc., etc., pour arriver jusque là au tournoi de destination avec des choses qui ont déjà été expérimentées au plus haut niveau.
Tu as raison, et en même temps, ça leur a amené la réflexion de se dire, mais peut-être qu'on est trop dans l'excès.
Même avec la dépossession, je suis désolé, mais lors du dernier tournoi de destination, l'équipe de France nous a régalé. Même si de temps en temps tu rends le ballon à ton adversaire, un Dupont qui m'a marqué un essai. Quand t'as un Penaud sur l'aile qui joue l'équilibriste et qui a fait des essais, je suis désolé, même si tu joues la dépossession, il y a dans cette équipe des génies qui sont capables de te régaler pendant un match et d'aller marquer des essais. Mais donc oui, mais il faut arrêter aussi de demander, on va pas demander la lune à cette équipe.
Ne compare pas la tournée d'automne avec le tournoi dernier. Oui. Le problème, c'est rien à voir. Il y a une restriction à ce niveau de la tournée d'automne calculée.
Il y a surtout des mecs qui étaient moins en forme, c'est surtout ça, au mois de novembre, je pense. Enfin, je sais pas, Wilfried, mais ils ont beaucoup donné. Au mois de novembre, ils n'avaient pas la même forme qu'ils avaient au mois de mars et au mois de février. Il y avait des joueurs absents. Là, on va voir ce que ça va donner. Mais je suis un peu inquiet aussi parce que l'infirmerie est pleine, que les garçons là aussi sont fatigués, qu'ils jouent énormément, de plus en plus. Et je me demande dans quel état ils vont arriver à la Coupe du Monde.
Mais
le jeu, prenez le beau jeu, faut arrêter.
Stephen.
Est-ce qu'on peut aussi se dire qu'on a tellement été dans un creux de résultats avant l'arrivée de Galtier qu'aujourd'hui on peut juste se contenter du résultat et de la gagne pure et dure sans être intransigeant sur la qualité du jeu proposé. En plus cette histoire de dépossession Christophe l'a dit, c'était pas le cas au début de la Galtier. Enfin il y avait du rugby, ça jouait, on avait le ballon dans les mains, il y avait des essais qui partaient de loin et j'ai l'impression que Galtier a essayé de mettre en place deux façons de jouer qu'on puisse maîtriser et qu'on puisse s'adapter face à l'adversaire. Et quand je vois les propos de Laurent Labitte, je pense qu'il y a une réflexion permanente aujourd'hui sur la façon de jouer. Ils sont en train de faire un petit peu de marche arrière pour se dire bon, on va revenir un petit peu à nos bases et à la prise de fonction de Fabien Galtier où on était un peu plus spontané avec des
garçons. On est dans l'alternance.
Voilà, avec des garçons qui sont capables de faire des choses avec le ballon. Après, on n'a jamais été champion du monde. Donc tout le monde va juger le résultat et non le jeu. Le jeu, tu le juges quand tu gagnes, quand tu domines.
C'est exactement ce que je t'ai dit. Je t'ai dit à un moment donné, il faut se poser la question, qu'est-ce qui peut nous faire perdre? Moi, je dis juste que ce jeu des possessions à l'automne que j'ai vu peut nous faire perdre.
Mais quand tu maîtrises les deux, c'est-à-dire que tu as plusieurs options dans ton jeu. Mais ça, tu peux changer en cours de match.
Tu peux avoir de l'ambition, c'est la preuve, ce qui remet un peu d'ambition dans le jeu. Donc, on va voir. Maintenant, je pense que le tournoi va servir de un peu de laboratoire par rapport à la Coupe du Monde et qu'on verra un peu plus de jeu.
Après, vous avez vu ce qu'a dit Labitte cette semaine nos confrères de l'équipe, il dit au mois de novembre, on a tellement formaté les joueurs du 15 de France qu'ils n'osaient pas y aller. Ils ont été trop bons élèves en fait.
Ils ont enlevé un peu la part de spontanéité des mecs qui ont du talent derrière. Après, si on est champion du monde et qu'on joue un jeu mauvais, je pense.
Encore une fois, comme tu dis, si on est champion du monde, parce que si tu n'es pas champion du monde avec un jeu comme ça, on va tomber deux fois.
Il ne faut pas se poser la question est-ce qu'on va être champion du monde. Il faut savoir se poser la question
comment.
On peut être champion du monde. Et comment on ne va pas perdre?
Pour l'instant, ils ont trouvé la réponse. Ça fait 13
matchs. C'est ce que je dis. Fabien Galtier a raison. Voilà. Moi, je suis le roi des cons.
Bon, Wilfried, un dernier mot.
C'est vrai.
Non, on attend de voir justement. C'est vrai, le laboratoire, je sais pas. Mais il y a des sacrés matchs, notamment un match en Irlande, où les Irlandais nous attendent de pied ferme, puisqu'on nous a battus l'année dernière, et ils sont premiers mondiaux.
Toi aussi, t'attends, parce que t'as laissé une ardoise que t'as pas payée dans un bistro là-bas.
Non, mais il faut quand même vendre l'autre match la semaine prochaine, Wilfried. Il y a un match Italie, en Italie quand même. Parce que
le fameux match piège, le premier match du tournoi, face à un adversaire présumé moins fort, le fameux.
Est-ce que celui-là, si on le vend pas, personne nous écoutera.
Est-ce qu'on est sur un week-end à Rome, Charvet? Templier.
Tous les 200 personnes, ouais.
Tous les deux avec mesdames, non?
Madame. Il y en a une, j'en prends qu'une.
Bon. Merci Wilfried. Merci beaucoup Wilfried. Et donc, on te retrouvera avant la semaine prochaine et ce match contre l'Italie, évidemment, sur RMC. À très bientôt.
Sans
merci
d'être passé dans les GG. Toute la semaine.
Merci beaucoup. Dans un instant, un homme en colère qui débarque dans le studio. Pierre Amiche n'est pas content. Il déteste qu'on lui parle du combat possible entre Ngannou et Fury. Il va nous dire pourquoi. Tout de suite sur RMC. Restez bien avec nous.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 10h31. Et on est ravis de vous retrouver tous les matins dans les GG du sport qui sont de retour, bien sûr, jusqu'à midi avec Denis Charvet, aujourd'hui Stéphane Brun, David Douillet et Christophe Cessieux. Dans un instant, cette nouveauté. Depuis une semaine, il y a des nouveautés en 2023 dans les grandes gueules. Ça s'appelle le guet-apens. Puisqu'on adore piéger nos GG. Elles ne connaissent rien du débat à venir. Et ça sera dans un instant, effectivement. C'est promis, hein. Vous ne connaissez rien du débat, hein. Christophe?
Non.
J'ai essayé quand même d'enquêter.
T'as bon d'avoir
l'oreille.
Denis, tu connais rien du débat à venir.
C'est sur David.
C'est sur David Douillet. David, ouais, tu connais pas le débat non plus.
David Douillet, s'est-il emparé des pièges jaunes?
David Douillet, président de la Fédération française de rugby.
Tu sais quoi, Stephen, tu peux en parler parce qu'on est en pleine opération des pièges jaunes. Donc,
ah oui, mais ça va.
Il faut y aller, les gars, parce qu'il y a toujours ton petit bout hospitalisé. Il faut vraiment être
généreux. Quand on va à la caisse, il y a des espèces de petites tirelières, là, les pièges jaunes.
Mettez vos pièges jaunes.
Allez-y.
Eric Salio, en direct de l'Open d'Australie. Rybakina Sabalenka, c'est la finale de l'Open d'Australie. Eric, où on en est? 1-7-0 pour Rybakina.
48 minutes de jeu sur la Rod Laver Arena. 1-7-0 donc pour Elena Rybakina, 6 jeux à 4. Et les deux filles ensuite ont pris une petite pause toilette. Donc on n'a pas beaucoup avancé dans le deuxième set. 1-0 pour Arina Zabaleka. D'accord. Dans le deuxième set. Elle est à 30 ans sur sa liste de la Kazakhstanaise. Absolument, ce sera bien pour le suspense. Puis pour elle surtout, qu'elle break. Mais voilà, elle retourne en filet. Donc 6-4, 0-1 pour Rybakina.
Merci beaucoup Eric. Allez tout de suite. L'homme en colère nous rejoint.
RMC. Quand je suis content, je vomis.
Je suis hyper content.
Un homme heureux.
Je suis tellement content.
Pierre Amiche.
Bonjour Pierre Amiche. Alors, t'es content ou t'es en colère? Qu'est-ce qui se passe?
Je suis en colère. Au début, j'ai été heureux. Puis en fait, non, j'ai
changé. Ah oui, en fait, t'as changé d'avis là. Entre...
Ouais, non, voilà. C'est, j'ai,
pourquoi
je fais
t'es
des
en colère
Eh ben, cette semaine, je suis en colère parce qu'hier, Francis Ngannou, l'ancien champion du monde poids lourd de l'UFC, a accepté le défi lancé par Tyson Fury, le champion du monde poids lourd de boxe anglaise. Un combat, un contre un, dans une cage, des gants de MMA, les règles de la boxe traditionnelle. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont tarés, qu'ils ont que ça à foutre, qu'ils aiment se goinfrer d'oseille. Juste avant de continuer, je précise que les propos que je tiens devant vous et nos 9 millions d'auditeurs, je les tiendrai évidemment devant eux aussi, armés d'un fusil à pompe ou d'un harpon à baleine. Sinon, je fais comme François qui a peur de tout. Sinon, je fais comme François qui a peur de tout. Je fais de lui, ils sont plus grands, plus lourds, plus forts en bagarre. Mes chances de sortir vivant d'une rixe avec ces deux éléphants de mer sont proches de zéro. Alors, revenons à nos moutons. Ngannou, le combattant surpuissant de l'UFC face au champion du monde poids lourd Tyson Fury. C'est la folie. C'est des superlatifs de partout, des lasers thromboscopiques dégueulasses, des litres de bière vidés dans des milliers de gosiers, un stade en fusion. C'est une promesse de violence, de punchline, de mauvais goût. Techniquement, je devrais adorer. Mais ça me fout en colère. En colère d'abord contre Tyson Fury. Franchement, en gros, t'es le meilleur poids lourd de l'histoire de la boxe. On n'en a rien à cirer de ton combat de catch. On veut te voir tordre Usyk, unifier les ceintures, finir dans un déluge d'insultes et de margaritas sur un yacht de 50 mètres, entouré de pin-up maquillés dégueulasses. J'ai pas envie de te voir faire des combats de rue contre des ours de MMA. J'ai pas envie de te voir faire du catch contre l'Undertaker. J'ai pas envie de te voir gâcher ton temps et ton talent. Tu feras des combats de cirque quand t'auras 50 piges et plus un radis. Je suis en colère ensuite contre Francis Ngannou. Francis, l'homme qui a dit non aux millions de dollars du grand capital. L'homme qui a voulu obtenir des droits pour les autres combattants. Francis Ngannou, ne réclamez non pas de l'argent, non monsieur, mais la dignité, des droits sociaux, du rabat à la cantine. C'était Jaurès, c'était Mélenchon. Et là, pouf, en deux semaines, Arlette Laguiller, c'est devenu Jeff Bezos. Quoi? Faire le guignol avec Fury dans une cage avec zéro intérêt sportif uniquement pour exciter les foules et faire de la caillasse? Bon allez, d'accord. Et en colère enfin, et c'est plus grave, contre moi-même. Parce qu'il pourrait organiser ça la nuit, au Qatar, avec Monsanto en sponsor principal, Noël Legrette en arbitre et Bernard Laporte promoteur. Eh ben, je regarde quand même. Je mets le réveil pour la bagarre. Je regarde la pesée. Je parie sur le combat. Parce que je suis un sale petit voyeur. Et que j'ai envie de savoir c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant. Je vais participer à 100% au succès du sport spectacle. Parce que je consomme, je clique, je pay-per-view, je Netflixise. Je réfléchis pas. Non, je consomme. Je sais que c'est mal. Mais je m'en fous. Et ça me saoule parce que je veux plus voir ça en boxe. J'ai jamais vu Tiger Woods défier Michael Jordan sur un tournoi de mini-golf. Il n'y a que dans ce sport-là que les légendes acceptent de faire les guignols en défonçant le premier qui passe. Et à force de rooster des youtubeurs, des influenceurs, des mecs pas boxeurs, on en finit par oublier que c'est un sport sérieux. Et ça me fait mal au cœur de voir qu'une partie de la lumière réservée à la boxe, au noble art, qui est déjà pas énorme, va être captée par ce genre d'événement qui ne reste que du cirque. Les spécialistes affirment régulièrement qu'il faut 15 ans pour devenir un grand boxeur. Alors même si ça m'excite, j'avoue que j'ai du mal à trouver génial un combat qui aura mis seulement 15 jours à se fabriquer de toutes pièces.
Merci beaucoup Pierre, et demain c'est promis, tu seras heureux. Alors, est-ce que ce combat, comme Pierre Amiche, ce combat de Ngannou Fury à venir, vous met en colère? Colère ou pas colère? Denis Charvet, tu es colère ou pas?
Oui, colère.
Tu es colère. Christophe Cessieux.
Moi, je suis partagé comme Pierre. Colère et en même temps, je vais regarder.
Bah, t'es quand même colère. Oui, t'es quand même un peu colère.
D'accord, moi, je vais regarder aussi à ce moment-là.
David Douillet.
Tu regardes pas que tu.
Colère
tu
ou pas colère, David Douillet?
Je vais regarder en colère alors.
David Douillet, est-il colère ou pas?
Alors, ben, j'attendais que mes amis terminent leur discussion. Non, oui, colère, mais.
Colère aussi.
Colère parce qu'on connaît déjà le résultat du match.
Je sais pourquoi il est en colère, David.
T'es colère ou pas?
David, il aurait pu être à la place de oui. Ngannou, David. moi, je suis un petit
non,
peu...
Non, justement.
Pour la caillasse, si.
T'es colère, non. David, vas-y.
Ouais, je suis colère parce que quand on connaît un peu le combat, la boxe en particulier, et l'UFC, voilà. Et surtout qu'Ngannou a accepté les règles de la boxe. Enfin, je suis désolé, mais je donne pas cher de sa peau, quoi. Voilà, c'est tout. Il a affaire au plus grand boxeur dans la catégorie de lourds aujourd'hui existant. Mais je vous le dis, il va se faire démonter. C'est obligatoire. Il aurait jamais dû accepter à minima les règles de la boxe. Voilà,
c'est même dangereux.
Mais bien sûr, il va se faire mais découper en rondelles. C'est comme si, je sais pas, je peux pas vous donner d'autres exemples, mais enfin c'est comme si on disait, je trouve que l'exemple du golf et du tennis, c'est-à-dire on demandait à un golfeur de jouer au tennis, c'est un peu ça, quoi. Voilà, il va se faire découper, quoi. Voilà. Bon, ben c'est comme ça, il l'a accepté, l'argent prévaut. Je suis déçu, parce que ça tire vers le bas, vers la boxe. c'est du spectacle, voilà.
Mais Denis, tu vas regarder quand même.
Non, non, mais je vais regarder, mais quand tu dis spectacle, oui, pour moi, c'est même du cirque. C'est du cirque, même.
Ouais, c'est du spectacle.
Il y a déjà eu un précédent,
McGregor Mayweather. Moi,
c'est du spectacle.
On l'a tous regardé. C'était grotesque. Moi, quand je suis sorti de ce combat, je dis à quoi ça sert? La vérité, à quoi ça sert? À rien. Parce que c'est pas spectaculaire. Il y a aucun enjeu. Il y a aucun. Même le combat. Alors, peut-être que ce combat-là sera plus relevé parce que on risque de voir des coups.
C'est l'affiche de spectaculaire.
Un peu plus direct quand même. Parce que souvenez-vous, McGregor Mayweather, il y a pratiquement pas eu de coups. Si je me souviens bien.
Et c'était avec des vrais grandes boxes.
Il y a des vrais grandes boxes. Oui. Là, par contre, on risque. Là, je pense qu'on risque de voir du sang. Donc, on risque d'être dans un truc un peu plus sauvage. Il me semble. Mais bon, c'est pas le sport, quoi. Voilà, moi, on n'est pas dans le cadre du sport.
Après, on est dans l'ère de conquête d'un nouveau public. Donc on en voit tout et n'importe quoi.
Oui, mais ce sont vous les responsables. Vous dites, je vais regarder. Donc,
tu regardes parce que.
Je te dis, je vais regarder, moi.
En tout cas, j'ai entendu Denis dire, Christophe Denis. Mais quoi, le jeu du cirque? Tout le monde allait au jeu du cirque.
C'est du sketch, ça va être burlesque. En fait, ça va être burlesque.
Après, la boxe fait partie des éléments que doit maîtriser Francis Ngannou MMA. La boxe, ça fait partie de.
Oui, mais l'écart va être tel.
Sauf que moi, j'aurais voulu que Ngannou s'entraîne, devienne spécialiste de boxe pendant 2-3 mois, le temps qu'il faut pour préparer un combat, que ça soit sur un vrai ring, pas une cage, parce que la cage,
c'est pas l'emballé,
c'est le show. Avec des gants de boxe. Le Fury parle de Mike Tyson en arbitre. Enfin, faut arrêter la mascarade un peu. C'est un pseudo combat. On mélange les règles. C'est n'importe quoi. Après, est-ce que Francis Ngannou a besoin d'oseille? On sait qu'au MMA, il n'a pas énormément gagné d'argent parce que le contrat a été ficelé. Donc là, ça va lui permettre de gagner énormément d'argent.
Est-ce qu'on sait les bourses d'ailleurs? Non,
c'est pas encore. Après, moi, ce que je regrette, c'est que Tyson Fury, sa destinée, c'est Usyk. Pour unir les quatre ceintures. C'est ça, c'est pas Ngannou. Tyson Fury, le plus grand poids lourd de l'histoire, un des plus grands poids lourds de l'histoire, sa destinée, c'est Usyk. Va te taper avec Usyk, mettez-vous d'accord.
Oui, mais là,
t'as l'impression que c'est beaucoup plus simple de trouver un accord en 15 jours avec Francis Ngannou pour monter un combat de jeu du ciel qu'avec Usyk, où c'est un vrai combat, où c'est une vraie compétition.
Oui, pour se poser la question, pourquoi il fait ce combat? Et moi, je pense qu'il fait ce combat pour dire, je suis le plus fort de tout le monde, de tous les combattants.
En fait,
on est sur l'homme le plus fort du monde.
Il a déjà la réponse, mais il veut le montrer au monde entier. Il n'y a aucun risque, je suis désolé, il n'a aucun risque. Il maîtrise tellement son art sous ses propres lois, il n'a aucun risque. Il faut prendre conscience de ça. Zéro risque, il n'a qu'à gagner de l'argent, c'est tout ce qu'il a à faire. Le reste, c'est la littérature.
Si un jour il veut être légal des Tyson, des Ali et tous ces grands champions qui ont unifié les ceintures et qui ont dominé le monde des poids lourds, c'est pas en battant Ngannou, c'est en battant Usyk. C'est là qu'il rentrera dans le panthéon de la boxe. Pierrot tout à l'heure disait c'est le plus grand boxeur des poids lourds. Non, je suis désolé, c'est pas le plus grand des poids lourds. C'est le meilleur boxeur actuel des poids lourds, mais il n'est pas rentré dans la légende à la cheville des Tyson et des Ali qui ont été les plus grands, qui ont dominé leur et qui ont fait des combats contre les meilleurs boxeurs. Là, tant qu'il n'y aura pas eu ce Usyk Fury, je suis désolé,
je ne comprends pas relativiser ce combat, c'est rien pour lui, c'est l'entraînement.
Il prend pas de coups, il ne prend pas de coups.
C'est juste dire, mais l'autre il a voulu faire le malin, je l'affronte devant tout le monde, il fait un petit entraînement, il prend 10 millions d'euros.
Il se chauffe depuis 2 ans.
Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que vous croyez que sur un ring, si Ngannou arrive à toucher plein fer.
Il y a personne qui a réussi à le toucher, Fury.
Jamais
personne qui l'a touché.
Tu veux qu'Ngannou
qui Wilder, il a touché un peu.
Je sais même pas s'il était au tapis.
Moi, je pense sincèrement que si Ngannou arrive à toucher. Parce que Ngannou, on parle pas de. C'est pas François Pinet.
Je savais que ça allait me tomber dessus.
Ngannou, s'il arrive à lui mettre une droite au menton avec toute sa puissance. Je demande à voir Tyson Fury.
Par contre, à nos auditeurs, il faudrait révéler les mensurations de François Pinet.
J'espère. Après, j'espère que ça va être un vrai combat. Ils vont se taper dessus.
C'est à 12h. C'est à 12h les paris sur AMC, non? C'est à 12h les paris.
Il ne le touchera jamais.
Il a raison.
Jamais.
Moi, je pense qu'il a raison.
Moi, je prends les paris. Il ne le touchera pas.
Et vous allez regarder pour voir justement s'il touche ou pas. Voilà, c'est ça.
Après.
part
le seul satisfaction pour Ngannou, c'est qu'il va prendre de l'oseille. Voilà, le mec il a fait 10 ans sans prendre beaucoup d'oseille, peut-être qu'il mérite aussi son bout de gras.
Bon, en tout cas, on va aller voir Eric Salio. Tiens, il y a un autre combat en ce moment, un combat
court. Ngannou fera du rugby après son combat.
Peut-être.
Au Stade Français,
il a signé au Stade Français. Open d'Australie.
Quand je vous disais que l'argent rend fou.
Eric Salio, Rybakina contre Zabalenka.
Eh bien, écoutez, si cette finale doit tourner, c'est maintenant. C'est maintenant parce que Zabalenka, qui a perdu la première manche 6-4, se procure une balle de break sur le service de la Kazakhstanaise. Et celle-ci, c'est Ranais. Voilà, je vous parlais de sa solidité. C'est une fille qui est froide comme ça. J'ai un confrère à côté qui parle d'un frigidaire. Je trouve ça un peu sévère. Oui. Mais en tout cas, sur les balles de break, elle est présente. Donc 6-4, Rybakina, 2-1 Zabalenka. 40 ans.
Très bien, on suit cette finale avec toi, bien sûr Eric, et on suivra la finale homme Djokovic-Tsitsipas demain sur RMC dans les grandes gueules. Mais
Eric Salio sur un ring face à Ngannou, ça aurait été intéressant. Oui.
Ou alors Salio contre Pinet, ça peut être bon aussi.
Ah, c'est pas Salio, qui gagne là.
Salio face à Pinet.
Ouais.
Ah. Alors là, je peux te dire. Je suis pas sûr qu'un KO.
Ça peut durer très longtemps. On va se tourner autour. Eric, c'est quand tu veux. Hein. Mais enfin, on fera une pétanque, c'est mieux. On est plus. Pas de problème, Eric.
Ouais, c'est moins dangereux.
Parlons sport, s'il vous plaît. Parlons sport.
Mais c'est du sport. Allez, tout de suite.
Pas du sport.
La nouveauté 2023 des grandes gueules du sport, puisque vous avez découvert cette série. La semaine dernière, c'est le guet-apens, un piège tendu à nos GG avec ce débat mystère. Il n'y a pas de préparation, là c'est sans préparation. C'est pire que Ngannou Fury. Ah ouais. Ça va être terrible.
C'est pour l'argent.
Restez avec nous sur RMC. À tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
10h48, les grandes gueules du sport, c'est jusqu'à midi. Aujourd'hui, Stephen Brun, Denis Charvet, Christophe Cessieux, David Douillet sont là pour vous réveiller. À 11h, on trouvera le bras de fer des GG. Il faudra choisir un camp, la porte qui s'entrouvre pour les sportifs russes aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Est-ce que vous êtes choqué ou pas choqué? Team choqué ou team pas choqué? Ça sera dans un instant. Le score, Eric Salio entre Rybakina et Zabalenka, finale de l'Open d'Australie dames.
Un troisième set est tout à fait envisageable puisque Rybakina donc a pris la première 6-4, la première manche 6-4, mais il y a 3-1 dans le deuxième pour la Bélarusse Zabalenka qui joue beaucoup mieux, qui s'est un petit peu détendu et qui, je trouve, si Stephen regarde le match, côté revers, c'est vraiment fantastique.
Ah, il regarde, il n'en rate pas une miette.
C'est monstrueux, ça va vite. Qu'est-ce que ça va vite.
Extraordinaire. Alors, à double faute de Zabalenka, voilà. Alors ça, elle est malvenue puisqu'elle offre une balle de débreak à Rybakina. C'est déjà la sixième double de la Bélarus.
Merci Eric, on te retrouve bien sûr pour suivre cette finale. Mais d'abord, c'est l'heure du guet-apens.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Si vous n'étiez pas là la semaine dernière, vous l'avez raté, cette première 2023, une nouvelle séquence dans les GG. Les GG qui ne connaissent pas le débat qui arrive. Vous n'avez rien préparé. Vous êtes à l'aveugle et pourtant, vous allez devoir prendre position sur ce débat caché. C'est quand même une première fois qu'on avoue à la radio qu'on n'a pas travaillé. Mais bon. Écoutez-moi bien, le débat. La France s'est qualifiée hier pour les mondiaux de handball.
Pour la finale,
bien sûr. Pour les mondiaux, ils étaient déjà. C'est une nouvelle finale pour la star française Nicolas Karabatic. Alors cette question, les GG, est-ce que Nicolas Karabatic est le plus grand sportif français de l'histoire? Oui ou non? Stephen Brun.
C'est le vrai débat ça ou c'est pour rigoler?
Non, c'est le vrai débat.
C'est une vraie question.
Ouais, c'est une vraie question.
Non.
David Douillet.
Non.
Christophe Cessieux.
Non.
Oh là là. Denis Charvet.
Non.
Quatre noms. Et pourtant, juste avant de vous laisser la parole, Nicolas Karabatic, c'est peut-être le plus grand palmarès de l'histoire française. 3 titres de champion olympique, 4 titres de champion du monde, peut-être un 5e dimanche, 3 titres de champion d'Europe, sans compter des médailles d'argent et de bronze. En club, 14 titres de champion, 10 Coupes de France, il a gagné partout. Il a gagné en Allemagne, champion avec Kiel à 3 reprises, champion d'Espagne avec Barcelone à 2 reprises. Et ce sera sa 11e finale avec les Bleus. Il n'en a perdu qu'une seule jusque-là. Et en plus, je ne parle pas des trophées individuels de meilleur joueur mondial de l'année qu'il a remporté à 3 reprises, meilleur joueur des tournois qu'il a gagné. Pourquoi c'est un non, Denis, ce n'est pas le plus grand joueur de
Je pense que c'est ingrat de dire qu'il ne l'est pas, mais en même temps, quand tu prends un sport, tu es obligé de prendre en compte la difficulté de ton sport, ce que les difficultés que ça représente, la concurrence qu'il y a dans ton sport aussi. C'est pas dire ni dire que le handball, il y a moins de concurrents, le handball, pardon, de moins de concurrence qu'au football, c'est une évidence.
Ouais.
Donc
c'est plus facile de gagner, c'est ça que tu es en train de dire.
Il me semble. Après, le champion, longévité, ce qui représente Karabatic, ce qu'il a fait, le palmarès, oui, mais c'est pas le palmarès qui fait dire que c'est le plus grand champion français. Il faut comparer avec Platini, avec Zidane, t'en mets plein en face, et puis tu dis, voilà, on va comparer.
On compare que les footballeurs, en fait. Il y a que le football.
Non, il y a Perret,
Bernard Hinault,
Yannick Noah, pourquoi pas.
Ils ont écrit Karabatic.
Oui, je pense, parce qu'ils ont suscité plus de passion, plus de débats. C'était des sports, peut-être, qui étaient pratiqués dans
tous les critères que tu mets dedans, le problème. Tu parles de passion maintenant. Il était passionné aussi.
Mais bien sûr.
Il a de l'émotion aussi.
Il a une personnalité assez effacée, Nicolas. C'est un immense. Oui. Attention, hein. C'est un immense champion. C'est un des plus grands champions de l'histoire du sport français. Je ne dis pas le contraire, mais de dire que c'est le plus grand, non. Le plus grand, je ne sais pas qui.
Peut-être qu'il y a David aussi. On va parler de David. Peut-être qu'il est
ordinaire. Mais oui, bien sûr.
C'est le plus gros. C'est ridicule.
C'est difficile de comparer de façon de.
Non, mais sincèrement, on peut pas comparer. C'est ridicule. C'est comme si on vous disait quelle est la plus fantastique voiture du monde, mais dans quelle catégorie.
Tu peux pas comparer au tennis
que tu compares les athlètes dans leur discipline. Là, même encore là, c'est quand même difficile. Parce que chaque génération, chaque histoire, à un moment donné, il y a des règles qui changent dans les fédés. T'as un championnat du monde qui était organisé tous les deux ans, puis après tous les ans, puis après tous les trois. Enfin, tu vois, le nombre de titres, ça, c'est absurde. On peut pas comparer des époques. On peut pas comparer des champions déjà dans une même discipline. Alors, comparer des champions dans des disciplines complètement différentes, c'est d'une absurdité totale. Mais, attends,
j'ai un autre débat. Quel est le plus grand judoka de l'histoire du judo français?
David, pour moi c'est Yamashita, parce qu'il est de mon époque.
Dans tout ce que tu dis David,
on a chacun nos champions de nos époques,
David, d'accord, mais les champions, tu peux aussi les juger par rapport à l'influence qu'ils ont sur leur sport et sur leur équipe.
Ils ont suscité,
tu vois ce que je veux dire.
Donc ça, c'est un autre débat.
La question
c'est quel est le plus grand champion français tout sport confondu.
Tu classes c'est où Nicolas Karabatic?
Parmi les meilleurs, il y a un Hall of Fame.
Il fait partie, bien sûr, évidemment, mais
comme Bernard Hinault, comme d'autres,
il y en a dedans.
Mais bien sûr, comme Jean-Claude Killy, quoi. Pourquoi on parle plus de Jean-Claude Killy? Parce que les époques se distancent. Mais ça, c'est des immenses champions dont on parle plus aujourd'hui. Aujourd'hui, Jean-Claude serait d'actualité. Enfin, ce serait cette génération-là. On le comparerait à Jean-Claude maintenant. Mais voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on a un Hall of Fame, je sais pas, de 50, 100 personnes, j'en sais rien, peu importe. Et puis là, il fait partie de la case. C'est tout. Depuis que le sport, mais attendez, faut reprendre dès le début. Depuis qu'on a remis le sport dans une société, alors à quelle époque ça a démarré tout ça, le sport vraiment, avec Coubertin, les jeux modernes, comment, à partir de quel moment vous faites démarrer ce Hall of Fame? C'est une vraie question.
Début du 20e siècle.
Voilà.
À partir de là,
Il y a les découvreurs, il y a les avant-gardistes. T'as des gens qui ont gagné une fois, mais à quel prix? Parce qu'il n'y avait pas de compétition, c'était mal structuré, etc., etc. Enfin bref, il y a tout un tas de considérations.
Le mot de la fin pour Stephen.
Non, je pense, alors déjà, très sincèrement, que Nicolas Karabatic, on peut le mettre facilement dans le top 1000. Le palmarès est exceptionnel. Je crois qu'il n'y a pas, mis à part Fourcade et des escrimeurs, je crois que c'est le garçon qui a pris le plus de médailles olympiques pour un athlète français. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter qu'au palmarès, parce que dans ces cas-là, Patrice Martin, il serait aussi Hall of Fame.
Il est. Gianni Longo aussi.
Tous les titres qu'il a gagnés, tu peux le mettre en Hall of Fame.
Très bien. Mettez Patrice si vous voulez. Dans ces cas-là,
Patrick,
Il y a beaucoup de monde qui rentre alors.
Tu plaisantes de quoi? Il y a combien de quinze titres champion d'Europe.
Enfin, quand t'es tout seul en ferme, tu peux être champion d'Europe.
Ensuite, mais même, il y a une difficulté.
Ensuite, il faut aussi mettre ça. Le palmarès c'est bien, mais il faut mettre en corrélation l'influence sur son sport. S'il était pionnier. Et puisque vous aimez bien faire les comparaisons, moi j'aime bien. Moi c'est mon truc là, qui est le meilleur, qui est le plus grand. Je vous dis que Tony Parker est devant Nikola Karabatic parce que Tony Parker a été pionnier dans son sport. Il s'est exporté dans un pays où c'était quasiment impossible d'exister si vous n'étiez pas américain. Lui, il a ouvert la porte de la NBA à tous les Français aujourd'hui qui sont NBA.
On parle pas de lui,
il
on parle de
Karabatic. Non, mais je te compare à Tony Parker à Karabatic parce qu'on demande un classement. Je te dis que Tony Parker pour moi est devant Nikola Karabatic en termes de plus grand athlète français. Voilà, tout simplement.
Tu viens de prouver ce que je viens de dire. C'est pas comparable.
Selon sa culture sportive,
figurez-vous sur Twitter et sur le hashtag AMC Live et sur le compte des GG, Parker Karabatic, qui est le meilleur. Voilà, on le lance.
Après, qu'est-ce qui fait la légende d'un champion?
Ce qui fait la légende d'un champion,
c'est aussi l'histoire qu'il a avec dans sa vie à lui, dans son. Tu regardes Maradona,
sa personnalité.
Ouais. Ça, c'est vrai.
Mais c'est vrai, t'es obligé de le prendre compte.
Est-ce que Maradona fait partie des plus grands athlètes français?
Ah, c'est une bonne question. On ne posera pas sur Twitter.
Et Martinez, le gardien d'Argentine.
Bon, allez, on continue les GG, bien sûr, avec dès 11h un autre débat. C'est notre bras de fer avec les sportifs russes qui pourraient participer aux Jeux Olympiques de Paris. En tout cas, le CIO leur entrouvre la porte. Est-ce que vous trouvez ça choquant ou pas choquant? Il faudra que nos GG choisissent leur camp et leur team. À tout de suite sur RMC dans les grandes gueules.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.